site de la paroisse.
Je vous propose qu'on prenne un temps de prière d'abord pour nous mettre sous le regard de la Vierge Marie qui nous accueille dans cette chapelle. Pour que cet entretien nous aide finalement à progresser dans notre chemin de carême vers Pâques. Parce que c'est l'objectif finalement. C'est que les uns et les autres nous progressions dans notre préparation pour le renouvellement de notre foi à Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je propose aussi que nous élargissions notre prière à l'église de Corée, puisque c'est un peu de cette église qu'on va parler ce soir. Et vous le verrez tout à l'heure, vraiment il y a une communion profonde, une communion de sang, scellée par le sang, entre nos églises de Vendée et de Corée, grâce aux martyrs, grâce à saint Henri d'Ory. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, saint Henri d'Ory, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous dispose pour accueillir ce qu'il veut nous dire ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était surpris que je dise que j'avais un peu le tract. D'abord parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'intervention, mais aussi parce que le sujet n'est pas facile, puisqu'il s'agit de parler de ce qui s'est vécu à des milliers de kilomètres de chez nous, grâce à quelqu'un quand même de chez nous qui est parti. Ceci étant, quand le Père Dominique, et je l'en remercie, m'a demandé de faire cette conférence de carême, je lui ai dit oui tout de suite parce que je pense qu'on ne peut pas dire non. Ce que j'ai vécu dans ce pèlerinage m'a profondément marqué, dans le pèlerinage que j'ai vécu au mois d'octobre dernier. Les dates, vous les avez sous les yeux. Est-ce que tout le monde voit? Oui. C'est le cadeau que nous avons offert et qui reste en Corée, à Séoul, de notre passage pour le pèlerinage que nous avons vécu avec six évêques, dont le cardinal Ricard, et des prêtres, des laïcs, des six diocèses qui ont répondu à l'invitation de Mgr Le Sceau, évêque du Mans, pour participer à ce pèlerinage à l'occasion du 150e anniversaire des martyrs de Corée. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas dire ce qu'on a vu et entendu quand on a fait ce pèlerinage. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant. Donc, ce pèlerinage, comme l'indique l'image que vous avez devant vous. Alors, il y aura quelques images, mais ça n'est pas d'abord pour faire un voyage touristique, c'est simplement pour accompagner notre réflexion et visualiser un petit peu ce que je vais vous dire, parce que moi, évidemment, j'ai ça dans la tête, vous l'aurez sur l'image de ce que nous avons vu au cours de ce pèlerinage qui s'est déroulé au mois d'octobre. Organisé donc à l'initiative de Mgr Le Sault, qui est l'évêque du Mans, pour le 150e anniversaire d'un martyr de son diocèse, pardon, de l'un de ses prêtres qui était en Corée. Il s'agit de Simon Berneux, un Sartois, né en 1814 à Château-sur-Loire, ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris, les MEP, nommé évêque en Corée en 1854 et décapité le 8 mars 1866 à Séoul. Mais très vite, Mgr Yves Le Sault a tenu à associer dans sa démarche les évêques des diocèses d'origine des 9 autres diocèses qui avaient envoyé des prêtres français aux missions étrangères de Paris et qui sont morts martyrs en 1866 et canonisés en 1884 par le pape Jean-Paul II. Donc vous avez visualisé les diocèses, Bordeaux et Bazas. Donc Mgr le cardinal Ricard était avec nous, l'évêque d'Angoulême, l'évêque de Digne, Riez-Sisteron n'était pas avec nous, mais il avait envoyé le directeur des pèlerinages, l'évêque du Mans, de Langres et de Luçon. Du 13 au 24 octobre 2016. Je cite, pour introduire cet entretien, ce qu'a écrit Mgr Yves Le Sault aux pèlerins qui s'étaient inscrits pour ce pèlerinage. « Chers pèlerins, nos frères et sœurs coréens sont très reconnaissants pour les missionnaires français martyrs qui ont participé à la fondation de l'Église chez eux. » Je vous invite à retenir cette phrase, vous la retrouverez à la fin d'une autre manière, parce que vraiment, c'est une des choses qui m'a profondément marqué. C'est la joie de ceux qui nous ont accueillis en Corée, reconnaissant des missionnaires qui sont allés porter l'Évangile chez eux. Il est heureux que nous n'en perdions pas la mémoire, ça va au niveau du son, que nous n'en perdions pas la mémoire et que la communion entre nos églises, donc du Mans et des diocèses de l'Ouest, et bien sûr l'église de Corée, que nous n'en perdions pas la mémoire et que la communion entre nos églises soit source de renouvellement missionnaire pour nous. Et j'ai envie de dire ou de rajouter pour nous chez eux et pour nous chez nous. C'est donc une délégation de 6 évêques et de 60 prêtres et laïcs représentant les 8 diocèses d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, Amiens, la Somme, Angoulême, la Charente, Bordeaux, la Gironde, Digne, Alpes de Haute-Provence, Langres, Haute-Marne et Le Mans, Sarthe, Luçon, qui voyagent à travers la Corée du 13 au 24 octobre 2016. Cette délégation s'est rendue dans les lieux où ont été décapités au XIXe siècle, entre autres, 10 religieux des missions étrangères de Paris. Je dis entre autres 10, parce que c'est la moitié des chrétiens qui ont été massacrés. Sur 40 000, 20 000 ont été massacrés au début de ces persécutions. Alors, je vais prendre un premier temps pour parler des martyrs de Corée un peu en général et puis de notre pèlerinage. Ensuite, évidemment, je parlerai de celui qui est chez nous, Henri Dory. Et puis, j'essaierai de vous faire découvrir un peu ce qu'a été sa vocation particulière comme prêtre, missionnaire, avec une vocation de martyr. « Pendant ces 11 jours, nous avons visité les principaux sites du catholicisme dans la péninsule. Le mémorial de Jeolduzan, alors il y a des noms un peu compliqués, et il y a un peu d'indulgence, il faudrait avoir l'accent coréen pour bien les dire, dont la crypte renferme de nombreuses reliques, la cathédrale de Myeongdong à Séoul, bâtie sur l'emplacement exact de la maison de Kim, que vous avez devant vous, qui est le premier martyr coréen. Kim Pong-woo, baptisé Thomas, premier martyr coréen, mort pour sa foi en 1787. Donc je vais commencer par vous parler des actes, ce qu'on a appelé les actes des apôtres coréens. Pour nous, pèlerins de France, et vous avez sur cette image la délégation du diocèse de Luçon, avec Mgr Casté. Vous avez également à droite sur votre photo l'évêque qui nous a accueillis à, là où a été martyrisé donc Pierre-Henri Dory. Alors je vais dire au début Pierre-Henri Dory et ensuite je vais dire Henri Dory, puisque Pierre-Henri c'est bien son nom de baptême, mais très très vite on a gardé que Henri Dory, lui-même d'ailleurs se faisait appeler Henri Dory. Pour nous pèlerins venus de France, il s'agissait, donc c'est un peu l'objectif de notre pèlerinage, de prier sur les lieux de martyrs, non seulement de ces 10 missionnaires français, mais aussi des dizaines de milliers de laïcs coréens qui, au XIXe siècle, ont subi le martyr au nom de leur foi. Et je dois dire, pour tout le groupe, mais pour moi personnellement, que nous avons été très impressionnés de découvrir l'ampleur de ces martyrs coréens et de tout ce que l'Église en Corée a fait depuis 1984 pour édifier des lieux de souvenir et organiser les pèlerinages. Vous n'allez pas voir beaucoup de photos parce que ce n'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que dans tous les lieux où on est passé, on a vu des lieux qui étaient récemment aménagés à l'occasion du 150e anniversaire, donc des lieux un peu neufs, pour vraiment garder une trace de ce qui constitue le fondement de l'histoire de l'Église en Corée, le sang versé des martyrs. Moi-même, quand je suis parti en Corée, je n'avais qu'un seul nom, c'est Henri Dory. Parce que quand j'étais enfant, ma maman me parlait d'Henri Dory. Je me souviens d'une revue Vocation qu'elle m'avait donnée un jour en me disant, je devais être en train de chahuter avec mes frères, « Lis ça, ça peut que te faire du bien. » Voilà. Et donc je garde le souvenir de cette revue et puis surtout du visage que vous allez voir tout à l'heure de Henri Dory. Sauf que quand je suis arrivé en Corée, j'ai découvert que ce n'était pas un martyr, c'était 20 000. Des centaines de prêtres missionnaires, mais aussi des laïcs coréens qui ont été massacrés d'une manière odieuse. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc nous sommes allés à Saemento, lieu de l'exécution proche du fleuve Han, où ont été torturés et tués, entre autres, plusieurs évêques, Mgr Laurent Humbert, né en 1796 dans le diocèse d'Aix, Saint-Jacques Chastan, né en 1803 dans le diocèse de Digne, qui a été présidé par Mgr François-Xavier Loiseau, de chez nous, pendant plusieurs années, ainsi qu'à Calmaeto, lieu de martyr au bord de la mer, de Mgr Marie-Nicolas-Antoine Develui, né à Amiens en 1818. De Saint-Martin-Luc Huin, né en 1866 dans le diocèse de Langres, et de Saint-Pierre-Aumêtre, né en 1837 dans le diocèse d'Angoulême. Voilà ce qui explique la présence des évêques de ces diocèses ou de leurs délégués. Bien sûr, nous sommes allés dans le sanctuaire près de Séoul consacré aux saints vendéens. Vous reconnaissez la photo, ceux qui connaissent. Aux saints vendéens Pierre-Henri Dory, né en 1839, arrivé en 1865 comme prêtre en Corée et décapité le 8 mars 1866. Donc un peu plus d'un an après son arrivée. Pour marquer notre passage dans plusieurs lieux où les martyrs ont vécu leur ministère, nous avons planté un arbre en mêlant la terre française et terre coréenne. Alors là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un petit sillon, et vous voyez Mgr Casté qui est en train de déposer, après les autres évêques, un petit peu de terre qu'il a emporté de la terre de Vendée, terre de Talmont peut-être, enfin, en tous les cas, terre de Vendée, mêlée à la terre qui ont été apportées par les autres évêques, en vue de planter, vous voyez qu'il y a des pelles qui sont devant vous, et en vue de planter un arbre en souvenir de l'ensemencement de l'Église de Corée avec le travail des missionnaires, l'œuvre des missionnaires de chez nous dans cette terre de Corée. Voilà. À l'occasion du 150e anniversaire du martyr de 1866. Vous voyez les évêques là, qui prennent la terre qui a été mêlée avec tous les diocèses qui étaient présents et qui va être jetée au-dessus de cette banderole que vous avez devant vous et où il y a un arbre. Et ça, on l'a fait dans trois endroits différents. C'est un moment très très fort pour nous et pour les Coréens aussi, qui avaient tout préparé et qui étaient tellement heureux de se dire « Notre terre, elle est mêlée à la vôtre grâce aux missionnaires » qui ont versé leur sang chez nous, qui sont venus de chez vous, nous porter l'Évangile. En tous les cas, partout, vraiment on peut le dire et le souligner, nous avons été accueillis très chaleureusement par les communautés catholiques locales. Voilà. On a dû faire une douzaine de sites, comme celui-ci, une douzaine, vous ne les ferez pas tous voir, avec une banderole signifiant notre rencontre et ici la visitation du groupe du pèlerin de France. Voilà. Vraiment, c'était une fête pour les communautés paroissiales, et ici c'est une communauté paroissiale que vous avez devant les yeux, qui nous ont entendus, d'ailleurs on avait un peu de retard, qui nous ont entendus pendant une heure, je crois, en gros, mais qui étaient tellement heureux de dire... Nous avons reçu l'Évangile grâce aux missionnaires que vous nous avez donnés. Accueillis par les familles et le clergé, les autorités civiles, dans plusieurs endroits nous avons été accueillis par le maire de l'arrondissement, par le préfet et quelquefois même par le député. Je cite les paroles du cardinal Richard, l'archevêque de Bordeaux. Dans notre société où l'on veut se prémunir de tout, le témoignage de ces jeunes missionnaires du XIXe siècle nous dit quelque chose de la force de la foi qui les a fait partir de chez eux en prenant le risque d'aller jusqu'à la mort pour le Christ. Donc ce pèlerinage, évidemment, nous a permis de mieux comprendre l'histoire de l'Église en Corée, une histoire unique de l'évangélisation de la Corée qui s'est faite non seulement par des religieux et des prêtres étrangers, mais aussi par des laïcs coréens, plus précisément des lettrés, donc des gens qui avaient une certaine culture, ayant lu le livre de Matteo Ricci, ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est parti en Chine, fasciné, comme le résume le cardinal Ricard, par la paternité et la fraternité de Dieu qui permet une société sans discrimination. Donc quand ils ont reçu les missionnaires, ils ont fait cette découverte, hein, qu'une société sans discrimination était possible grâce à l'Évangile. Donc vous reconnaissez le visage de Saint Pierre-Henri Dory. Alors maintenant, je vais parler surtout de Pierre-Henri Dory, qui est de chez nous, fils de Pierre Dory, laboureur, et de Geneviève Bigognot. Pierre-Henri Dory est né au village du Port à Saint-Hilaire-de-Talmont. Est-ce que tous vous connaissez Henri Dory? Vous avez tous entendu parler d'Henri Dory. Aujourd'hui donc Saint-Hilaire de Talmont, aujourd'hui Talmont Saint-Hilaire, né donc le 23 septembre 1839, de parents cultivateurs, modestes, le premier garçon d'une famille de 6 enfants, comme c'était courant à l'époque, sans compter les 2 jumeaux décédés à leur naissance, c'est-à-dire 8 enfants. Pierre-Henri Dory, baptisé le jour de sa naissance en l'église de Saint-Hilaire-de-Talmont sous le nom, donc, de Pierre-Henri Dory, mais plus tard, lui-même signe couramment son courrier du seul prénom d'Henri, ce qui fait que dans la mémoire de beaucoup de Vendéens, on parle plutôt de Henri Dory, alors que son vrai nom c'est Pierre-Henri Dory. En tous les cas, un courrier abondant témoigne de sa grande affection pour sa famille. J'y reviendrai tout à l'heure. Les pierres de sa maison natale ont vu éclore sa vocation, elles l'ont vu grandir dans la foi, dans le cadre familial, mais aussi avec les autres enfants du village, fréquentant l'école, l'église, participant aux cours de caté. Et à l'âge de 10 ans, il demande lui-même à entrer au petit séminaire de la Bauduère au Sable-d'Olonne. Pierre-Henri Dory fait ses premières études au petit séminaire des Sables-d'Olonne, dont les professeurs donnent de leurs élèves ces appréciations relevées sur ses billets d'honneur en première année. Je cite. Moins qu'assez bien, parle trop facilement, bien en règle pour la classe, puis au fil des années suivantes, sans grave reproche, rien à dire, disposition ordinaire, bon esprit, bon caractère, comportement généreux, vocation presque certaine, dès le petit séminaire. Puis il entre au grand séminaire de Luçon en octobre 1860. Attiré très vite par les missions lointaines, il est admis au séminaire des missions étrangères de Paris le 13 août 1862. Il y sera ordonné prêtre le 21 mai 1864. Avec une très grande joie, Henri Dory reçoit son affectation pour la mission et fut envoyé en Corée, alors que dans un premier temps, il pensait aller ou au Japon ou bien en Chine. Corée, terre interdite aux étrangers, donc il savait où il allait mettre les pieds. Rien ne pourra le faire changer d'orientation, pas même les parents ou le comte de Bessay qui avait aidé Henri Dory financièrement pour ses études, puisqu'à cette époque-là, une famille d'agriculteurs ne pouvait pas subvenir à la prise en charge d'un séminariste pour ses études, pour son hébergement, pour sa nourriture. Donc il était souvent quelqu'un de la paroisse qui assurait ce financement. En tous les cas, Henri vouait un attachement particulier au comte de Bessay, près de Mareuil, qui avait choisi de financer le soutien de ce séminariste. C'est au bout de son long parcours qu'à 26 ans, Henri Dory, habité depuis longtemps d'un désir d'être missionnaire, débarque en cachette en Corée avec 4 autres missionnaires. C'était le 25 mai 1865. Au bout d'une traversée très longue, de plusieurs mois, on a de la peine à imaginer ça aujourd'hui, il faut penser que son embarquement et son arrivée en Corée, ça a été une affaire de plusieurs mois. Traversée épuisante, pleine de dangers, malgré tout, l'équipage manifeste sa joie et en témoigne ainsi dans le courrier « Loin de Séoul, après un voyage très long, épuisant, plein de dangers ». Peu après, Henri rencontre à Séoul le vicaire apostolique Mgr Simon Berneux, qu'il affecte au village de Songkol, et c'est à Songkol que Henri Dory va subir le martyre, on le retrouvera tout à l'heure, où il passe les 8 premiers mois de sa courte vie missionnaire, 8 mois seulement, avant d'être décapité, mais ayant vécu une situation qui le contraint à vivre surtout dans la clandestinité. Éclate alors la plus sanglante persécution de Corée, où seront pris, torturés et décapités avec de très nombreux Coréens, 9, sur les 12 prêtres qui travaillent à ce moment-là en Corée. Pierre-Henri Dory est arrêté à Songkol le 23 février 1866 par la police coréenne qui recherchait des missionnaires entrés en fraude. Emmené à Séoul, Pierre-Henri est torturé, décapité au port de la ville le 8 mars 1866. Le même jour, avec 2 évêques de la province, Mgr Berneux dont j'ai parlé tout à l'heure, 4 autres missionnaires dont les pères Juste de Bretonnière, Louis Beaulieu et 17 Coréens. Ainsi Pierre-Henri Dory, né près des plages de l'océan Atlantique, réalise à l'âge de 27 ans son rêve. J'en reparlerai dans quelques instants. Son rêve de mourir martyr pour le Christ et ses frères. Ses frères d'Asie, sur une plage de sable au bord du fleuve Han, non loin de Séoul, la ville des délices. C'est ainsi qu'on appelle et qu'on désigne cette ville de Séoul, qui est une des plus grandes villes du monde, hein, super moderne, qui s'est développée très vite, contrairement à la Corée du Nord. Et vraiment, aujourd'hui, c'est impressionnant de découvrir cette ville, de vallée en vallée, puisque en fait, on n'a jamais une vue d'ensemble de la ville de Séoul. Elle est faite de vallées, de petits monts, de petites montagnes, et quand on croit qu'on arrive à la sortie de Séoul, en fait, on entre dans un autre quartier. Un peu comme si tous les arrondissements de Paris avaient leur indépendance géographique. Ce qui est impressionnant. Donc ici, pardon, je suis passé un petit peu vite, vous avez l'un des dessins parmi beaucoup de ceux qu'on a vus qui montre une scène de martyr. Voilà, vous avez quelqu'un qui est pendu à un arbre sur votre droite, voilà, qu'on est en train de flageller. Un peu au centre, vous avez quelqu'un qui est allongé et qu'on est en train d'étirer sur un chevalet de torture. Bon. À gauche, vous avez quelqu'un qui est en train de flageller. Voilà. Et puis devant, vous avez des gens qui sont liés les uns aux autres. Derrière, d'ailleurs, le premier des martyrs, Kim, André Kim. Voilà. On les retrouvera tout à l'heure. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que les scènes de torture sont horribles. Horribles de par ce qui a été pratiqué, mais surtout, c'est parce que là, on ne le voit pas sur celle-ci. Mais on convoquait toute la population pour qu'ils assistent au premier acte du martyre, c'est-à-dire on commençait à taillader les membres des chrétiens, puis ensuite on disait aux gens, voilà ce qui va vous arriver si vous ne reniez pas votre foi, enfin si vous n'abjurez pas. Voilà. Et il y a effectivement un certain nombre de Coréens qui ont renié leur foi parce que qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, hein. Et on leur disait, voilà ce qui va vous arriver dans quelques jours si vous ne revenez pas pour abjurer votre foi. Et ensuite, on exposait les gens qui n'étaient pas encore morts, les chrétiens, pendant 24 heures, 48 heures, et on les achevait après. La plupart des scènes de martyrs sont de ce niveau-là. Donc, la plus sanglante persécution de Corée éclate, alors où seront pris, torturés, décapités de très nombreux Coréens, avec ceux dont je viens de parler il y a quelques instants. Emmené à Séoul, Pierre-Henri sera torturé, puis décapité aux portes de la ville le 8 mars 1866, le même jour avec donc deux évêques. Béatifié à Rome le 6 octobre 1968 par le pape Paul VI, Henri Dory est l'un des 103 martyrs de Corée canonisés donc à cette date, canonisés plus tard à Séoul le 6 mai 1984. Donc c'est une date très proche de chez nous. C'était la date de mon ordination diaconale, enfin l'année de mon ordination diaconale. Canonisé par le pape Jean-Paul II à l'occasion, ça c'est une date importante aussi, il y avait la canonisation, mais c'était à l'occasion de la célébration du 200e anniversaire de la naissance de l'Église de Corée. Donc c'était quand même une date très forte pour les Coréens. C'était pas simplement pour une canonisation, c'était la canonisation de ceux qui ont versé leur sang et qui ont fait naître l'Église en Corée il y a 200 ans plus tôt. Ce fut, la première canonisation de l'histoire de l'Église qui eut lieu hors de Rome. C'est à Séoul, en 1984, que le pape Jean-Paul II a fait la première canonisation en dehors du Vatican. Toutes les canonisations avant avaient lieu à Rome, au Vatican. La délégation vendéenne se souvient encore, la délégation vendéenne qui était présidée et conduite par Mgr Charles Patti, de cette grandiose cérémonie. On fait mémoire de lui, c'est-à-dire de Henri Dory désormais, le 23 septembre, aux messes célébrées en Vendée pour notre diocèse. Voilà, on peut visiter la maison natale de Saint-Henri Dory à la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Cette maison a été restaurée il y a quelques années. Après des travaux, la chambre d'Henri est restée en l'état. On le verra dans quelques instants. La charpente du grenier mérite le coup d'œil. Apposée au mur d'une salle au rez-de-chaussée, une exposition sobre et évocatrice souligne le parcours d'Henri depuis son enfance jusqu'à son martyre en Corée et les réalités actuelles de l'Église en Corée. Vous allez le voir dans quelques instants. Je voudrais simplement préciser également, parce que vous en avez peut-être entendu parler, qu'à La Roche-sur-Yon, depuis septembre 2003, la maison Saint-Henri Dory a ouvert ses portes pour foyer diocésain pour accueillir des jeunes hommes de 18 à 30 ans qui veulent approfondir leur foi et le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie, peut-être vocationnelle. Tout en poursuivant leurs études ou leur travail, ils peuvent y être hébergés et vivre une vie avec d'autres, une vie communautaire, dans cette maison qui se trouve rue Poche, la rue parallèle à celle qui mène à la gare de La Roche-sur-Yon. Voilà. Maintenant, je voudrais essayer de répondre à une question que nous nous posons tous, soit pour Henri de Ries ou pour les martyrs en général. Comment comprendre le cheminement spirituel qui a conduit ce jeune garçon et d'autres martyrs à vivre une telle aventure dans la joie, alors qu'ils savaient dès le départ que cette aventure pouvait les conduire au martyr. La première chose, enfin, je vais dire trois choses là-dessus. La première chose, c'est grâce à sa famille et à sa paroisse. Ensuite, Henri de Ries, c'est évidemment grâce à l'histoire de son époque, puis à l'évolution de l'Église en Vendée, terre de vocation. Tout d'abord, c'est grâce à sa famille et à sa paroisse. Henri est né d'une famille chrétienne paysanne, son père, Pierre, sa mère Geneviève sont fidèles aux pratiques religieuses de leur paroisse. Messe dominicale, jour de fête, prière en famille, confession, communion annuelle. Voilà ce qui a préparé d'une certaine manière, en tous les cas à l'origine, le jeune Henri à sa future vocation. Famille très proche des prêtres de la paroisse Saint-Hilaire de Talmont. Lorsqu'il entre au séminaire en 1852 au Sable-d'Olonne, puis à Luçon, Henri de Ries porte déjà en lui l'appel de la vie missionnaire, d'où son choix d'entrer en 1862 au séminaire des missions étrangères de Paris, qui forme les futurs prêtres appelés à partir dans les missions de l'Extrême-Orient, et notamment en Asie. Je vais vous lire quelques extraits des lettres qui nous sont parvenues à propos du départ d'Henri de Ries, qui a vécu très douloureusement le moment où il a quitté sa famille. Il a même reproché à ses parents de ne pas avoir compris sa vocation. Ses parents, on peut comprendre d'ailleurs, ses parents évidemment étaient heureux d'avoir un fils prêtre, mais un fils prêtre ici, chez nous, en Vendée. Un prêtre qui partait à l'étranger, ça voulait dire, à cette époque-là, les moyens de communication évidemment n'étaient pas développés comme aujourd'hui, d'une part, et surtout, partir en Extrême-Orient, c'était probablement ne jamais revenir. Donc les parents de Henri de Ries étaient dans cette perspective-là. Le 27 avril 1862, Henri, alors âgé de 23 ans, écrivait à ses parents « Ne vous inquiétez plus de me voir. Laissez-moi comme si je n'étais plus de la maison, car je vois que je vous suis à charge. » Aussi je me consacre à Dieu pour jamais, c'est-à-dire pour toujours. Quelle joie pour vous, cher papa, chère maman, de voir votre fils Henri se donner tout à Dieu. Priez pour moi, priez donc pour moi, afin que je persévère et que je fasse un jour un bon prêtre. Il n'est pas prêtre à ce moment-là. Il quitte sa famille pour aller aux missions étrangères de Paris. Un bon apôtre, sans apporter plus de précision, ses parents pouvaient déjà se douter de la vocation missionnaire de leur fils suite à une indiscrétion qui leur a fait connaître le désir donc de Henri. Ce que je veux préciser, c'est que l'épreuve, elle est pour les parents vis-à-vis de Henri et de Henri vis-à-vis de ses parents. Pour lui-même, quitter sa terre natale, c'est une épreuve très difficile. Mais il est fondé. Donc pour lui, ça n'est pas un problème comme ça le sera pour ses parents. Le 1er mai 1862, Henri avait pris contact avec M. Albrand, supérieur du séminaire des missions étrangères de Paris. Je le cite. « Depuis de longues années que je me sens dans mon cœur l'ardent désir de me consacrer tout à Dieu et au salut des âmes. » Me consacrer tout à Dieu et au salut des âmes. Le moment est enfin venu où il m'est permis de réaliser mon dessein. Aussi, est-ce en ce but que je viens aujourd'hui vous demander humblement d'être agrégé à votre belle congrégation ? Donc c'est sa demande pour faire partie des missions étrangères de Paris. Cependant, Monsieur le Supérieur, je désirerais connaître à quelles conditions je pourrais y être admis, car je ne doute pas de mon admission. Il est sûr qu'il va être reçu, mais il veut connaître les conditions dans lesquelles on va l'accueillir et les conditions dans lesquelles il sera appelé à vivre, bien sûr, la vocation qu'il souhaite réaliser. Le 23 mai, il reçoit une réponse favorable de Monsieur Albrand, Henri, qui lui exprime sa joie et sa reconnaissance d'avoir été admis. « Je vous remercie, je vous ai une obligation infinie, Monsieur le Supérieur, de vouloir bien me mettre au nombre de vos enfants. À partir de ce jour, vous pouvez compter sur moi, car ces messieurs directeurs que j'ai consultés consentent à mon départ. Ils m'engagent à prendre aussi quelques semaines de vacances. Je profiterai de ces jours pour régler quelques petites affaires de famille. » Au début de juillet, Henri quitte le séminaire de Luçon pour prendre ses dernières vacances auprès de sa famille, s'imposant de faire à pied les 38 à 40 kilomètres qui le séparent de la maison paternelle, malgré la chaleur de juillet, comme pour se prouver à lui-même qu'il avait la force nécessaire pour répondre à l'appel de Dieu. La force physique, il lui en faudra, mais dans l'immédiat, il aura besoin de toute la force morale pour annoncer son départ prochain pour le séminaire des missions étrangères de Paris, devant affronter son bienfaiteur, le comte de Besset, qui avait financé ses études au séminaire de Luçon, et également l'abbé Renelot et ses parents. L'abbé Renelot, curé de sa paroisse, et ses parents, évidemment, qui ne comprennent pas pourquoi aller si loin, on retrouve notre actualité, alors qu'il y a besoin aussi chez nous. Pour comprendre la détermination du futur missionnaire, nous disposons de deux lettres, l'une adressée au comte de Besset et la deuxième à son curé, donc Renelot. Donc un entretien, mais aussi un entretien avec sa mère, c'est un entretien poignant. Sa maman qui pleure, qui ne comprend pas pourquoi son fils va les quitter, comme si il les abandonnait. Depuis longtemps, je sens dans mon cœur le désir de me dévouer tout entier au salut des idolâtres. Je n'ai même pas le courage d'abandonner ces âmes créées à l'image de Dieu, rachetées au prix infini de son sang de Jésus-Christ, ces âmes pour lesquelles notre Seigneur mourrait encore, s'il le fallait. Aussi, est-ce en ce but que je viens aujourd'hui vous demander, donc à ses parents, la permission de partir pour les missions étrangères. Vous avez beaucoup fait pour moi, Monsieur le Comte, et à jamais je ne saurais trop vous remercier. Il s'adresse également au Comte de Besset. Mais je crois que je ne pourrais mieux le faire qu'en me dévouant ainsi. C'est-à-dire, je n'ai pas d'autre moyen de vous remercier pour tout ce que vous avez fait que d'aller jusqu'au bout de ma vocation et donc de la mission qui en découle. Ce sera vous qui, après Dieu, important ça, il s'adresse au comte qui a financé ses études, ce sera vous qui, après Dieu, serez la cause principale de la conversion des pauvres infidèles. Si Dieu permet, comme je l'espère, que je sauve les âmes de quelques sauvages, ces âmes, arrivées au ciel, vous reconnaîtront comme le Père spirituel. C'est-à-dire qu'avant même de partir, extraordinaire quand même, avant même de partir en Corée, Henri écrit à son bienfaiteur financier, « Ceux que je vais ramener à Dieu, c'est à vous qu'il les devra. » C'est quand même très fort. Surtout à l'âge où il est. Ils vous reconnaîtront comme le Père spirituel et intercéderont pour vous auprès du trône de la Majesté suprême. Quant à moi, je suis un vil instrument. Mais qu'importe ? Plus l'instrument est vil, plus Dieu sera glorifié. Je trouve que c'est quand même des paroles très très fortes. Donc précédemment, pardon, vous aviez une image de la chambre de Henri Dory au moment où il qui a été réaménagé évidemment, mais qui a été réaménagé avec les éléments qu'on avait et qui représente la chambre telle que les parents l'ont gardée et la famille de Saint Henri Dory, la chambre de l'époque. Vous pouvez la visiter d'ailleurs aujourd'hui. Il faut aussi ajouter les dispositions naturelles et les qualités reconnues par tous ceux qui ont côtoyé le jeune Henri. Sa gentillesse, sa docilité, sa modestie, son esprit de service, la ferveur de sa piété, l'ardeur de sa foi et de son amour de Dieu, allant jusqu'au sacrifice de sa vie dans le martyre auquel il aspirait très tôt, dès son plus jeune âge. Je veux, je le cite, il l'écrit lui-même, « Je veux souffrir et mourir pour Jésus-Christ et pour la propagation de son règne. » Je veux souffrir, mourir pour Jésus-Christ et pour la propagation de son règne. On peut encore ajouter, évidemment, le rayonnement de sa joie intérieure et son esprit de mortification. Henri Dory n'était pas connu comme quelqu'un de triste, mais au contraire, quelqu'un qui était habité intérieurement par une joie profonde. Ceux qui en ont témoigné par la suite, d'une manière unanime, ont confirmé ces aptitudes de Henri Dory, ses qualités et ses dispositions naturelles. La deuxième chose, l'histoire humaine de Henri Dory. Bien sûr, le cheminement de Saint Henri Dory s'est inscrit dans l'histoire humaine et religieuse de la terre vendéenne du XIXe siècle, marqué par un nouvel élan missionnaire qui s'est concrétisé notamment par le déploiement des congrégations religieuses ainsi que la restauration de la Société des missions étrangères de Paris. Mais rappelons-nous d'abord les congrégations religieuses en Vendée, avec le père Monroe, le père Louis-Marie Baudouin, et puis les filles de la sagesse, etc. La restauration de la Société des missions étrangères de Paris, qui existait depuis beaucoup plus longtemps, depuis 1663, mais qui disparaît au moment de la Révolution et qui réapparaît en 1814 pour former des prêtres et des frères destinés justement, ce qui fait la spécificité des missions étrangères de Paris par rapport aux missions africaines de Lyon, plutôt ouvertes sur les pays d'Afrique, mais là ouvertes sur l'Extrême-Orient, l'Asie, les missions étrangères de Paris. Notez, de leur fondation en 1663 jusqu'en 1940, les missions étrangères de Paris ont formé plus de 3500 missionnaires pour l'Extrême-Orient. Plus de 3500 missionnaires. C'est quand même important. Voilà, ça dit quand même quelque chose qui a marqué l'histoire de l'Église. De plus, la publication de brochures qui attirait l'attention des catholiques sur la vie dans les missions. Et je pense que les uns et les autres, pour les plus, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps, nous avons tous connu ces brochures qui ont contribué dans notre diocèse, en particulier en Vendée, au développement de l'œuvre de la propagation de la foi. Donc je crois me souvenir qu'il y en a une qui portait ce titre, Propagation de l'œuvre de la foi, enfin en Vendée, et qui s'est répandue à partir de 1822, mais très longtemps après. C'est-à-dire que c'était des brochures qui étaient faites pour aider les chrétiens de base, comme nous, à comprendre que la mission de l'Église ne se réduisait pas à nous évangéliser, elle devait porter l'Évangile là où l'Évangile n'avait pas encore été accueilli, annoncé et accueilli. Alors, quelques extraits d'une autre lettre de saint Henri d'Ory. Je suis dans les temps. Pardon ? Il reste plus que 5 minutes ? J'ai fait que la moitié ? Ah oui, il faut m'arrêter. Mais je ne me rends pas compte que le temps passe. C'est comme les siècles. Bon, merci. Donc je ne lis pas. Je poursuis. Merci Dominique. Parce que je voulais vous lire un extrait d'une lettre à ses parents. Mais vous pourrez la lire dans ce livre si vous le voulez, je pourrais vous le prêter, où il dit à ses parents: vous n'avez pas compris ma vocation, vous pleurez, vous souffrez parce que je pars, mais si je pars, c'est pour annoncer le Christ. Voilà. Donc je résume très rapidement. Saint Henri d'Ory a donc pris place dans la longue cohorte des chrétiens qui, depuis la Pentecôte, ont donné leur vie par amour de Dieu, pour la propagation de son règne, par amour de leurs frères. Et vraiment, on sent, quand on lit ce qu'a écrit, il a écrit beaucoup, finalement, il écrivait à tous les membres de sa famille, pas simplement à ses parents, à son frère, à sa belle-sœur, au curé de sa paroisse, au professeur du séminaire de Sainte-Delonne, puis du séminaire des missions étrangères de Paris. Donc on a un courrier abondant d'Henri d'Ory, où on perçoit combien il était très tôt pétri par le désir d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Christ. À leur suite, les missionnaires, il nous dit, Henri d'Ory, que toute vie donnée rencontre la croix, non comme un mur, mais comme une porte par laquelle il faut passer pour entrer dans la lumière et la joie de la vraie vie. Monseigneur Santier, qui a accompagné une délégation de notre diocèse en 2006 à Séoul, dit ceci, nous pose la question: n'est-ce pas là le secret de la mystérieuse joie qui habitait saint Henri d'Ory? Ainsi, lors de son pèlerinage en Corée pour la béatification de 124 autres martyrs en 2014, le pape François, que vous voyez sur l'image ici, rend hommage à ces laïcs qui furent les premiers apôtres de la Corée. De fait, rappelle le pape François, je le cite, la foi chrétienne n'est pas parvenue sur les rivages de Corée par des missionnaires, mais bien par des laïcs lettrés qui s'étaient plongés dans l'étude des Écritures saintes découvertes en Chine auprès des missionnaires jésuites. Bon, le pape François jésuite connaît bien cette histoire-là. Je le cite encore, « Cette histoire nous en dit long sur l'importance, la dignité et la beauté de la vocation des laïcs. Les invitant les catholiques coréens à s'inspirer puissamment de l'exemple de leurs ancêtres dans la foi, le pape François les a rappelés et nous rappelle, nous aussi, à la radicalité de l'Évangile. Là où nous pouvons être tentés de faire des compromis sur la foi, de diluer les exigences radicales de l'Évangile et de nous conformer à l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit mondain, l'esprit du temps. Dans une société qui est basculée en 20 ans, dans l'hyper-compétitivité et le consumérisme. Une société où, à côté d'immenses richesses, grandit silencieusement la plus abjecte pauvreté. Le cri des pauvres est rarement écouté. Pour avoir visité donc désormais la Corée, et en particulier Séoul, c'est une ville qui s'est modernisée d'une manière très rapide, et aujourd'hui la Corée est même devant la France au niveau technique, au niveau technologique. En clair, choisir entre suivre Jésus ou le monde, je cite, les martyrs coréens qui furent prêts à de grands sacrifices nous provoquent à nous demander s'il y a quelque chose pour laquelle nous-mêmes nous serions prêts à mourir. Le pape François, toujours, souligne la route indiquée par les martyrs qui ont dû choisir entre suivre Jésus ou le monde. Voilà encore une image qui nous rappelle un certain nombre, quelques scènes qu'ont subi les martyrs. Plus de 20 000 sur les 40 000 chrétiens à une époque. 20 000 sur les 40 000. La moitié des chrétiens ont été dépouillés de tout ce qui pouvait les attacher à cette terre. Mais ils ont choisi le Christ et ils ont choisi d'être fidèles à la foi jusqu'au bout. Je cite encore le pape François. Un exemple pour aujourd'hui. Très souvent, nous faisons l'expérience que notre foi est mise à l'épreuve du monde de multiples manières. Il nous est demandé de faire des compromis sur la foi, de diluer les exigences radicales de l'Évangile et de nous conformer à l'esprit du temps. Cependant, les martyrs nous rappellent de mettre le Christ au-dessus de tout et de voir tout le reste en ce monde, en relation avec lui et avec le royaume éternel. Les martyrs nous provoquent à nous demander s'il y a quelque chose pour laquelle nous-mêmes nous serions prêts à mourir. Je vais terminer. Encore 2 minutes. Voilà. Vous avez une photo de l'église récente de Songkol, tout près du lieu où repose Saint Henri d'Ory. C'est un moment émouvant quand on arrive sur cette terre et qu'on foule les lieux où Henri d'Ory a été emmené pour être décapité. Le pape Jean-Paul II, dans son homélie pour la canonisation à Séoul le dimanche 6 mai 1984, je le cite, « La floraison splendide de l'Église en Corée aujourd'hui est en effet le fruit du témoignage héroïque des martyrs. La mort des martyrs est semblable à la mort du Christ sur la croix, parce que comme le sien, le leur est devenu le début d'une nouvelle vie. Cette nouvelle vie a été manifestée non seulement par eux-mêmes, à ceux qui ont subi la mort pour le Christ, mais il a aussi été étendu à d'autres, devenu le levain de l'Église comme communauté vivante des disciples et des témoins de Jésus-Christ. Le sang des martyrs est la semence de chrétiens. » Et cette phrase, dès les premiers siècles, je dis un peu trop vite, du christianisme est confirmée devant nos yeux par le sang des martyrs d'hier, mais ceux d'aujourd'hui, encore en Syrie et dans un certain nombre d'autres lieux. Conclusion. Permettez-moi de reprendre tout d'abord cette prière de saint Augustin dans une homélie sur le psaume 140, expliquant, c'est pour nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui, comme dans l'histoire de l'Église, la passion du Christ est celle de tout son corps et en particulier signifiée par les martyrs. Seigneur, j'ai crié vers toi, écoute-moi. Nous pouvons tous dire cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ total qui le dit. Mais cela est dit davantage au nom de son corps. Lorsqu'il était ici-bas, Jésus a prié en portant notre chair. C'est au nom de son corps qu'il a prié son Père, tandis qu'il priait, de grosses gouttes de sang sortait de tout son corps. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Jésus priait avec plus d'insistance. Il eut ainsi une sueur de sang, ce sang qui jaillit de tout le corps. N'est-ce pas la souffrance des martyrs qui appartient à toute l'Église ? Le 22 avril 1984, alors qu'une délégation vendéenne s'apprêtait à rejoindre Séoul pour participer au 200e anniversaire de la naissance de l'Église en Corée et à la canonisation de 103 martyrs, dont le père Henri de Ry, voilà ce qu'écrit Mgr Charles Paty, évêque de Luçon. Que saint Henri de Ry soit pour nous source d'une foi renouvelée et d'un nouvel élan missionnaire. Je conclus ainsi. Alors que nous vivons cette année du jubilé des 700 ans de la fondation de notre diocèse, nous souvenons de tous les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, sans oublier bien sûr les nombreux martyrs de la Vendée. Puissions-nous être renouvelés dans notre joie de croire et notre bonheur de vivre. Cette année jubilaire nous offre de rendre grâce pour tout ce qui a été vécu depuis la fondation de notre diocèse et continue de se vivre. Qu'elle permette à chacun et à vous tous, en s'inspirant de l'itinéraire spirituel de saint Henri de Ry et des martyrs de la Vendée, qui au nom de leur foi ont donné leur vie, de réveiller notre ardeur missionnaire dans nos communautés paroissiales. Et je termine sur cette photo, sur cette image d'une des délégations qui nous a accueillis dans une paroisse. Vous reconnaîtrez l'évêque du diocèse, Mgr Castet et moi-même, et puis le directeur de l'agence qui nous a organisé le pèlerinage, et puis après, des Coréennes. Avec cette phrase qu'on a entendue des dizaines de fois, « Merci ». Nous vous remercions de nous avoir envoyé des missionnaires qui nous ont apporté l'Évangile. Rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui aujourd'hui nous apportent l'Évangile. Merci.